La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Le monde n'est que mesure. Du matin au soir, dans notre vie de tous les jours, nous passons notre temps à mesurer les choses qui nous entourent. C'est le temps qui passe, la vitesse de notre voiture, notre poids, le la des musiciens ou encore les gigaoctets de nos ordinateurs. Et la semaine prochaine, eh bien, c'est une vraie révolution qui se prépare dans la mesure du monde. Du 13 au 16 novembre, en effet, à Versailles, les unités de base du système international seront toutes redéfinies selon les constantes de la physique. Le kilogramme va par exemple devenir quantique. La tête au carré s'intéresse justement à ce sujet. Nous y consacrons deux émissions à cet enjeu majeur pour vous expliquer comment les peuples d'abord se sont accordés sur les mesures et ce qui va se passer donc avec ce bouleversement des poids et des mesures. J'attends dès maintenant toutes vos questions pour nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, de nouveaux éléments qui éclairent la construction des grandes pyramides par les Égyptiens.
Oui, une rampe de 30 mètres de long découverte dans une carrière nous montre comment les ouvriers déplaçaient d'énormes blocs de pierre sur des pentes parfois très raides. Une découverte importante dans un instant.
Et Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Sophie Vaux.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La révolution dans les unités de mesure. C'est donc la première des deux émissions que nous vous proposons aujourd'hui et la semaine prochaine pour évoquer donc la redéfinition des unités. Et bienvenue donc à mes invités, Bruno Jacomi, commissaire d'une exposition qui s'appelle Sur mesure, les 7 unités du monde, en ce moment au Musée des Arts et Métiers. Et Mathieu Thomas, ingénieur de recherche au Laboratoire National de Métrologie et d'Essai. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Bruno Jacomi. C'est vraiment un enjeu majeur ce qui va se passer la semaine prochaine à Versailles, là, pour bien comprendre.
Ah bah oui, parce que ça va être la fin des unités matérielles, des étalons matériels, puisque le kilogramme va, disons, il va rester, le kilogramme matériel, mais toutes les unités de mesure deviendront immatérielles.
Mathieu Thomas, justement, cette révolution des unités va passer par les constantes de la physique, ce qui veut dire concrètement que le kilo va devenir quantique pour passer du matériel à l'immatériel?
Eh bien, après avoir été défini pendant 125 ans par un cylindre en platine iridiée qui pesant par définition 1 kg, ouais. Le kilogramme sera défini par référence à une constante de la physique, la constante de Planck, une constante du monde quantique.
Voilà, pour avoir plus de précision encore hein, sur ce qu'est par exemple 1 kg, mais ce ne sera pas la seule unité revisitée. Et on va en discuter évidemment tout au long de cette émission dans un instant avec les messages et les questions pour vous sur le site de La Tête au Carré. A tout de suite.
Comment ont-ils pu bâtir de tels édifices?
En empilant les pierres les unes sur les autres.
Et c'est le retour vers le chantier à bord des bateaux chargés de pierres. Et la construction pouvait reprendre. Numéro Bis était maintenant certain de respecter les délais, ce qui était très rare dans le bâtiment à l'époque.
Voilà un extrait du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, puisqu'on va déplacer de très grosses pierres avec les Égyptiens. Axel, aujourd'hui, à la une de la science, avec toujours cette grande question, comment ont-ils construit les grandes pyramides?
Oui, toujours la même question, et un nouvel indice découvert dans une carrière en moyenne Égypte. Il s'agit d'une rampe large de 3 mètres, creusée dans la roche et encadrée d'escaliers. Elle date de l'époque de Khéops, donc des grandes pyramides, et nous montre comment les ouvriers déplaçaient d'énormes blocs de pierre sur des pentes allant jusqu'à 20%. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec celui qui a dirigé ces fouilles, l'archéologue français Yanis Gourdon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue ancien et membre scientifique de l'IFAO. Alors, vous avez fait cette découverte au début du mois d'octobre dans la carrière d'Atnoub, c'est à 400 km au sud du Caire, et vous n'étiez pas du tout là-bas pour ça. Racontez-nous un peu comment vous êtes tombé sur cette rampe alors.
Oui, en fait, à l'origine, lorsque nous avons ouvert le chantier en 2012, on était allé sur la carrière d'Atnoub pour travailler sur les inscriptions, puisqu'en fait, depuis sa découverte en 1891, on sait que cette carrière était couverte d'une cinquantaine d'inscriptions, détaillant parfois les expéditions dans cette carrière ou mentionnant des rois qui avaient commandité ces expéditions. Et donc en fait, lorsqu'on a commencé à faire des dégagements pour trouver de nouvelles inscriptions, car nous en avons trouvé, hein, maintenant on en a plus d'une centaine supplémentaires, nous avons découvert cet escalier, un premier escalier, un début de rampe, et donc ça c'était en 2015. Et en 2017, on a poursuivi les dégagements, et cette année, donc en septembre 2018, nous avons dégagé sur une trentaine de mètres, effectivement, une rampe centrale avec flanquée en fait de deux escaliers qui comportent eux-mêmes des trous de poteaux assez imposants, puisqu'ils font dans les 70 à 80 cm de diamètre. Et en fait, on a découvert un système de halage de blocs sur des pentes effectivement très raides, puisqu'on est sur à peu près du 20%, voire plus en d'autres endroits.
Alors concrètement, comment est-ce qu'on faisait pour monter des blocs de pierre à l'aide des structures que vous décrivez ?
Alors en fait, donc on a cette rampe centrale qui est une rampe concave en fait, qui était recouverte de limon, sur laquelle on faisait glisser vraisemblablement un traîneau qui portait un gros bloc. Donc vous avez rappelé que la rampe en elle-même faisait 3 mètres de large, donc ça veut dire qu'on pouvait transporter des blocs qui faisaient eux-mêmes 3 mètres de large. Ce traîneau qui portait ces blocs était arrimé en quelque sorte à des grands poteaux sur les côtés en fait de la rampe. Mmh. Et donc on avait des personnes qui tiraient ce traîneau vers le haut, et à la fois en fait ces poteaux et ces cordes permettaient d'empêcher le traîneau de repartir vers l'arrière, et puis effectivement de le tirer facilement vers le haut.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvriers qui était nécessaire, Yanis Gourdon, pour effectuer cette opération là que vous nous décrivez?
Alors là, il faudrait faire des mesures plus particulières. Donc, on est en train de rédiger des articles à ce sujet. Ce qu'on sait par contre, c'est que on a une inscription notamment qui date de l'Ancien Empire, donc de l'époque des Grandes Pyramides, un petit peu postérieure à Khéops, mais qui mentionne 4000 ouvriers, enfin 4000 personnes du moins, qui travaillaient dans ces carrières. Donc, on ne sait pas exactement combien de personnes étaient affectées au halage des blocs, mais disons que ça donne une idée en fait de l'ampleur du chantier.
Alors on l'a dit tout à l'heure, la construction de cette rampe est contemporaine à celle de la grande pyramide de Khéops, il y a environ 4500 ans. Est-ce que les pierres de Atnoub ont servi à l'édifier ?
Alors, pas du tout. Ça, c'est une chose justement sur laquelle il faut bien s'accorder. On n'a jamais utilisé l'albâtre pour construire les pyramides. L'albâtre a été utilisé, c'est une pierre de prestige en fait, qui a été utilisée pour faire des sarcophages, des dallages de temples, entre autres aussi de la vaisselle de pierre. Mais ça n'a jamais été utilisé pour la construction même des blocs de pyramides.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on transportait certainement l'albâtre de la même manière que le calcaire.
Voilà. Voilà, effectivement, parce que en fait tout l'enjeu réside dans ces calculs de pente. Parce que jusque-là, on estimait que pour transporter des blocs faisant plusieurs tonnes, on ne pouvait pas avoir des pentes qui excédaient 5%, voire 10% pour des blocs un peu plus légers, on va dire. Mm-hmm. Mais là, en l'occurrence, on a la preuve qu'on pouvait transporter de gros blocs sur des pentes extrêmement raides grâce à un système assez élaboré, en fait, que nous continuons de mettre au jour.
Est-ce que parmi les inscriptions qui se trouvent sur le site, certaines vous ont aidé à comprendre ce que vous aviez découvert ?
Alors, malheureusement, il n'y a pas d'inscriptions qui décrivent exactement ce système. On a quelques textes qui font mention de routes, enfin de voies plus ou moins. On a sur le site de Deir el-Berchet une très belle représentation qui est célèbre, qui montre le transport d'un colosse réalisé en albâtre et provenant des carrières de Atnoub. Mais on ne nous décrit pas précisément comment les opérations se passent. Donc en fait, c'est en combinant finalement les données archéologiques et ce qu'on sait par ailleurs, en fait, qu'on arrive à reconstituer cette hypothèse.
Alors, les pierres sortent de la carrière, remontent cette pente, et qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite alors ?
Alors, ça aussi, c'est un des enjeux qui nous intéresse, c'est de savoir si on taillait intégralement les objets, que ce soit statues, sarcophages ou autres, sur place, pour ensuite les transporter jusqu'à la vallée et les faire partir par le Nil, soit vers le nord, soit vers le sud. Ou alors si on faisait des ébauches, alors on a déjà des éléments qui montrent qu'il y avait des ébauches, mais ça dépend aussi de quel type d'objet. Pour des petits objets, c'est avéré. Pour des gros objets, on n'a pas encore de réponse à ce sujet. Donc ça aussi, ça fait partie des questions qui restent en suspens et auxquelles on aimerait bien apporter des réponses peut-être à la prochaine campagne.
Yannis Gourdon, cette pente de 20%, là, quand même, c'est stupéfiant. Il n'y a aucune possibilité pour que la pente se soit déformée au fil du temps, quand même.
Ah non, non. Alors ça, c'est l'intérêt, justement, du travail qui a été fait sur les traces d'outils. C'est notre collègue Olivier Lavigne qui a apporté des réponses là-dessus. Il a pu montrer que, justement, le creusement de l'ensemble du système de halage, donc escalier-rampe, c'est fait en une fois. Il n'y a pas eu de retaille, par exemple, 100 ans plus tard ou 300 ans plus tard. Mm-hmm. L'ensemble s'est fait par des mêmes équipes. Et donc, en fait, ce qui permet de dater, c'est les inscriptions les plus anciennes qu'on va trouver sur les parois qui bordent ce système de halage. Or, il se trouve qu'on a deux inscriptions qui datent de Khéops et qui sont les plus anciennes. Donc, ça nous permet de dire que ce système était connu au plus tard, a été installé du moins au plus tard sous Khéops, et que donc lorsque Khéops a voulu faire construire sa pyramide, on savait comment aller des blocs sur des pentes extrêmement raides.
Alors quelle va être la suite de vos travaux dans cette carrière de Hatnou ? Est-ce que vous allez dégager l'ensemble de cette rampe pour voir comment elle est grande ?
Ah oui, alors là, ça fait partie, au début c'était un peu notre rêve, mais là maintenant ça devient une nécessité, puisque on a aussi des éléments en bas de la rampe, dans une partie complètement droite, qui montre à nouveau ce système de halage. Donc on l'a dégagé en partie, donc maintenant il faut véritablement dégager les presque 70 mètres qui restent, donc ça va nous prendre encore quelques années, mais heureusement nous avons le soutien de l'Institut Khéops qui travaille pour nous, et puis on a HIP aussi qui fournit un partenariat scientifique aussi et technique. Et Gédéon Programme aussi, qui nous ont bien aidés cette année.
Bruno Jacomi, puisqu'on va parler des mesures avec vous, c'est quand même incroyable, avec les outils rudimentaires de l'Égypte antique, d'être capable justement d'ériger de tels monuments ou de déplacer des blocs de pierre comme ça.
Mais là, on se rend compte avec cet exemple concret que il y avait tout un ensemble de systèmes de mesures, de calibres, d'unités qui étaient déjà très élaborés, aussi bien pour la construction des pyramides, quand on voit la précision avec laquelle les pierres Absolument. Sont assemblées, mais aussi pour le Nil, pour pouvoir calculer les surfaces des champs, pour pouvoir donner tant d'eau aux différents paysans. On a tout un ensemble de mesures de distance, du temps, de longueur, de surface, etc.
Très, tout ça très sans la physique quantique à l'époque. Hein.
Apparemment non.
Donc chapeau. Merci Yannis Gourdon pour vos explications et pour votre découverte. Évidemment, vous étiez en direct de Lyon. Merci Axel.
Merci,
et
à
on
demain.
On se retrouve demain avec une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'océan a absorbé beaucoup plus de chaleur que nous ne le pensions depuis 20 ans. Chaque année, depuis 25 ans, les océans absorbent une chaleur équivalente à 150 fois la production mondiale d'électricité, selon une estimation nouvelle faite par des géoscientifiques de l'université de Princeton dans la revue Nature. Cette chaleur absorbée correspond à 90% de la chaleur excédentaire produite par le réchauffement climatique. Si les océans du globe ne dépassaient pas 10 mètres de profondeur, ils feraient déjà 13 degrés de plus sur la planète, ont commenté les chercheurs. Le lama, un champion peut-être pour combattre la grippe, en quête d'un vaccin universel contre cette maladie. Des chercheurs californiens ont testé des anticorps de lama sur des souris grippées et les résultats sont impressionnants et démontrent l'efficacité de ces anticorps qui sont venus à bout de 59 des 60 souches testées sur les rongeurs. Un premier pas convaincant, mais il y en aura beaucoup d'autres avant de mettre au point un vaccin. Il faudra notamment tester l'innocuité de ces extraits de lama sur l'homme. Et puis pour terminer, les prénoms que nous donnons à nos enfants reflèteraient le devenir de nos sociétés. Une étude très originale menée par des chercheurs écossais décrit l'évolution globale des noms donnés au Royaume-Uni depuis 1883. On voit d'abord la domination des noms bibliques jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis l'arrivée de noms issus de la diversité et de l'immigration, tels que des noms italiens, polonais ou indiens. Et puis, depuis le début du XXIe siècle, l'arrivée d'Internet, un autre phénomène est en marche, selon les chercheurs, la recherche d'individualité. On modifie les orthographes, on cherche la perle rare, quitte à inventer des noms dans un besoin grandissant de se distinguer des autres. Cette publication en anglais est à retrouver pour les curieux sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, la mesure du monde dans un instant, c'est l'objet de notre Tête au Carré.
Avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Cette fille sur la photo, jalousie, me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie, me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Écrasant les premières étincelles, jalousie, c'est pas. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Jalousie.
Jalousie, c'était la voix d'Angèle à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, la semaine prochaine à Versailles, du 13 au 16 novembre, c'est un changement d'ampleur qui va avoir lieu autour des unités de mesure. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, on en parle justement avec mes invités pour comprendre l'enjeu de cette révolution au pays des poids et mesures. Bruno Jacomi, vous êtes donc commissaire de cette exposition qui s'appelle « Sur mesure, les 7 unités du monde » qui est à voir en ce moment au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et on verra que d'unités, en fait, il y en a beaucoup plus que 7, mais on va expliquer pourquoi là, en l'occurrence, on parle des 7. Et Mathieu Thomas, vous êtes ingénieur de recherche au Laboratoire National de Métrologie et d'essais. Donc les auditeurs vont nous rejoindre avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. Alors effectivement, ces 7 mesures, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Bruno Jacomi?
7 mesures, ça reste un nombre un petit peu mythique, hein, 7, oui. Parce que finalement on s'aperçoit qu'on pourrait peut-être se débrouiller avec un peu moins, mais qu'importe, le tout c'est de donner un certain nombre d'unités de base. Et ces unités de base, elles sont 7 aujourd'hui, mais elles ont commencé avec simplement 2-3 au moment de la Révolution, puis on en a rajouté d'autres. Et avec l'avancée des sciences, des techniques, on a rajouté des unités électriques jusqu'à la candela, etc. Donc ça couvre un champ extrêmement vaste finalement, oui, qui touche tout le monde.
Mathieu Thomas, est-ce qu'on a réussi à faire un inventaire de toutes les unités de mesure? Parce que quand justement vous nous dites qu'on pourra en utiliser beaucoup moins, en réalité il en existe tellement pour répondre finalement à tous les besoins dans tous les domaines, hein, du monde finalement.
Alors effectivement, on est arrivé au nombre de 7 unités de base, donc qui sont vues comme indépendantes l'une des autres. Il y en a 7, il peut en avoir plus, il peut en avoir moins, c'est un nombre pratique. En revanche, ce qu'on appelle les unités dérivées, par exemple, je pense à l'hectare, tiens, au mètre carré, elles sont en nombre, je ne dirais pas indénombrable, mais en tout cas non limité. Il y en a de très nombreuses qui sont différentes selon les domaines de la science qui nous intéressent. On peut penser aux unités en biologie ou l'activité en chimie. Donc le nombre d'unités en tant que tel n'est pas limité. Oui. Vraiment, on nous intéresse aux unités de base sur lesquelles se construisent toutes les autres unités qui sont dites donc justement unités dérivées.
Oui. Alors Bruno Jacomi, au Musée des Arts et Métiers pour l'exposition, vous en avez réuni combien alors en plus des 7 finalement? Il y en a beaucoup d'autres. Hein.
Mais oui, on a essayé en fait de montrer que on en trouve dans tous les domaines, que ce soit la santé, la météorologie et même la société. Parce qu'en fait, dans l'exposition, on a commencé avec l'homme parce que effectivement, la première chose quand un bébé naît, on le mesure, on le pèse, on prend sa température, on commence dès ce moment-là à le mesurer. Et aujourd'hui, la société elle-même est constamment mesuré.
Ouais. Et justement, on entre dans cette exposition avec cette chanson.
Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien posées, autour d'un puits creux.
Voilà, la chanson du cake d'amour, extrait de Peau d'âne de Jacques Demy. Et c'est effectivement, on voit les images de la recette pour l'ouverture de l'exposition au Musée des Arts et Métiers, avec à la fois de la précision et alors du pifomètre aussi.
Oui, c'est ça.
La pincée de sel, par
exemple.
Exactement,
parce que la cuisine est typiquement le lieu où l'on va apprendre la métrologie quand on est enfant. Et puis toutes les recettes commencent par la nomenclature des quantités bien précises de choses, mais après on donne un peu de sel, un peu de poivre,
c'est ça.
Et là,
ça fonctionne quand même.
Hein. Et oui, c'est tout le talent du cuisinier.
Voilà,
justement,
parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, et c'est l'objet aussi de ce vote qui aura lieu à Versailles la semaine prochaine, c'est l'ultra précision finalement des unités de mesure. Mais malgré tout, le monde s'est pas mal débrouillé jusqu'à ce qu'on arrive à faire des choses très très fixées. Hein.
Ah oui. Mais là, il y a une notion qui est fondamentale en métrologie, on l'a vu en fréquentant nos amis du Laboratoire National de Métrologie d'essai, c'est la notion d'incertitude et la marge qu'il peut y avoir. Oui. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais donner une valeur sans donner la valeur supérieure, la valeur inférieure. On devrait dire, prenez 500 grammes de farine, plus ou moins 10 grammes, par exemple. Mais ça deviendrait un peu compliqué.
Oui. Et puis pour les calculs aussi, Mathieu Thomas, parce que par exemple pour les GPS, si on n'avait pas une précision de calcul, on n'aurait jamais pu diriger nos véhicules, par exemple.
Alors, on pourra en reparler, mais effectivement, le GPS, la technologie du GPS n'est concevable que en ayant une définition du mètre, en l'occurrence, qui se base sur la vitesse de la lumière, une constante de la physique, et en étant capable de mesurer les temps de manière très précise. Ouais. Et chaque localisation GPS nécessite de mesurer des positions. Et comme repère temporel, on peut dire que si on se trompait d'une nanoseconde avec les temps utilisés, on ferait une erreur d'un mètre.
Oui. Et justement, la vitesse de la lumière dans le vide, là, en l'occurrence, c'est une donnée qui ne bouge jamais.
Ah, c'est une donnée, en l'état actuel de nos connaissances de la physique, qui ne bouge pas, qui est donc stable dans le temps et qui est stable dans l'univers. A priori, elle est égale à elle-même en tout temps, en tout lieu, est disponible à tout expérimentateur physique qui voudrait s'en servir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est œcuménique, en tout cas, qui est vraiment accessible à tout le monde, à tous les scientifiques, à tous les utilisateurs.
Et c'est l'idée aussi, justement, de revoir les unités de mesure pour qu'elles soient désormais accessibles à tout le monde, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, avec le fameux étalon kilogramme, par exemple.
Exactement. Si on reprend l'exemple du mètre, pour venir après sur le kilogramme, le mètre a été jusqu'à l'avant-guerre défini comme la longueur entre deux traits sur une règle, vraiment un étalon de longueur, puis défini successivement pour arriver à une définition sur la vitesse de la lumière, petit c, une constante de la physique, une constante fondamentale, avec le grand intérêt qu'on passait d'une règle qui était unique, qui pouvait se perdre et qui n'était pas disponible, à une constante, comme je viens de le dire. Le kilogramme, c'est le même processus qui va avoir lieu, parce que le kilogramme, c'est à l'heure actuelle la dernière unité qui soit définie sur ce qu'on appelle un artefact matériel, un objet.
Oui, donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait matériel, un objet physique.
C'est le dernier, c'est un cylindre en platine. Alors c'est 39 mm de hauteur, 39 mm de diamètre. C'est à peu près gros comme une balle de golf. C'est vraiment un objet petit.
Il est en région parisienne, à Sèvres.
Juste à
Porte de Paris.
Conservé sous trois cloches de verre et dans un coffre qui soit avec trois clés. Enfin, il y a tout un protocole.
On va écouter un petit documentaire justement à ce sujet pour évoquer le kilogramme qui vous est si cher, Mathieu Thomas.
N'imaginez pas l'un de ces imposants poids de balance anciennes. Le kilo étalon est un petit cylindre d'à peine 4 cm de haut, 90% de platine, 10% d'iridium, conservé depuis 1889, année de sa naissance, quelque part sous le pavillon de Breteuil à Sèvres.
Le prototype international est sous trois cloches en verre. La température est stable, l'humidité est contrôlée. Les conditions sont à peu près les mêmes depuis le début.
Richard Davis, physicien-chercheur honoraire au Bureau international des poids et mesures, précise qu'il faut trois clés pour ouvrir le caveau où il se trouve. Les scientifiques ne le sortent que très rarement pour le comparer à ses répliques. Or, au fil des ans, il y a des différences sensibles au point que les chercheurs ne sont plus très sûrs que la masse de l'étalon reste la même.
Il est un objet unique, donc c'est vraiment une solution du 19e siècle. Donc le problème, c'était de trouver une meilleure solution qui donne au moins la même exactitude.
Voilà, Mathieu Thomas. Alors, expliquez-nous bien, parce que jusqu'à maintenant, quand on voulait vraiment connaître la valeur d'un kilo, il fallait se référer à ce kilogramme étalon.
Oui, parce que la définition du kilogramme dans le SI, dans le système international d'unité, c'est la masse du prototype international du kilogramme, donc la masse de ce cylindre. Donc, par définition, pour savoir ce que c'est qu'un kilogramme, il faut accéder à cet objet.
Oui, qui a l'air dur d'accès d'ailleurs, on
comme
l'a compris.
Comme il est précieux, il ne faut pas ni l'user ni le perdre. Il a été en moyenne sorti de son coffre et pesé, si on veut, par rapport à d'autres étalons, une fois tous les 50 ans. Donc 4 fois de...
Seulement ?
Oui, à peu près tous les 50 ans.
Mais donc... pourquoi ? Parce qu'il y a une fragilité, justement, c'est pour éviter que le poids ne change au cours des manipulations ?
Puisqu'il définit un kilogramme, si on l'usait, si on le rayait, si on l'abîmait, toutes les masses seraient impactées si on le dégradait. Donc pour être certain de ne pas l'user, en tout cas pour l'user le moins possible, on s'en sert le moins possible. Donc une fois tous les 50 ans. 1889, 1940, 1989 et 2014. Vraiment très rarement. Il est comparé à d'autres étalons qui, eux, servent ensuite à étalonner toute une chaîne de dissémination et donc finalement nos balances commerciales au bout d'un certain temps de dégradation de l'incertitude puisque, évidemment, le prototype un seul du kilogramme est ce qui a la meilleure incertitude et à chaque fois qu'on fait les comparaisons, on dégrade cette incertitude.
Donc Bruno Jacomi, on n'avait pas qu'un kilogramme quand même dans le monde.
Ah non, alors justement, celui qu'on a exposé dans l'exposition, c'est le 44 pointé.
Oui.
C'est celui qui était un étalon national. Mais effectivement, ce qui est très important, ce que vous disiez tout de suite, c'est cette chaîne qui va aller de ces 7 étalons de base jusqu'à l'étal du marchand, jusque dans le laboratoire. C'est-à-dire qu'il faut des étalons secondaires, tertiaires, etc.
Voilà.
Et cette vérification, c'est aussi quelque chose qui a existé depuis les origines, finalement. On a toujours voulu éviter la fraude, éviter les erreurs, et donc il faut pouvoir décliner les unités de base en unités utilitaires, si l'on veut.
Ouais. Donc le kilo ne fait plus le poids, c'est vraiment ça qu'il faut dire aujourd'hui.
Exactement.
Par rapport aux exigences, finalement.
Voilà. Hein. Non, mais c'est intéressant.
Et la précision
parce que
des calculs.
Quand vous parliez tout à l'heure de la nanoseconde et de la distance, j'entendais tout ce qui a pu se passer au XVIIIe siècle avec la navigation en mer, la mesure de la longitude, où là aussi, il fallait avoir des horloges les plus précises possibles pour que la distance, l'erreur possible en mer, soit diminuée en conséquence.
Allez, on se retrouve dans un instant et puis vous répondrez bien sûr au message des auditeurs pour parler donc de la mesure du monde sur franceinter.fr. Après le March, c'était sa version, elle, de Laisse tomber les filles.
444, 445, 446, 446, 449, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450,
Mesure. De là à de là.
Excuse-moi, tu veux pas juste arrêter de compter, parce qu'on paye exprès des mètres-heures pour ça.
La tête au carré.
Voilà, Astérix Obélix, on aime beaucoup aujourd'hui pour parler justement des unités de mesure avec mes invités Bruno Jacomi et Mathieu Thomas et les questions des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Il y a d'ailleurs Jean-Paul qui vous demande concernant les pays anglo-saxons, d'où viennent leurs mesures et pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas alignés sur notre système métrique. Mathieu Thomas, vous voulez répondre à Jean-Paul ?
Alors d'où viennent leurs mesures ? On remonterait sans doute loin dans l'histoire, mais globalement toutes les mesures, disons, européennes, par exemple le pied, l'unité de longueur, viennent des mesures de l'Empire romain. De la même façon, pardon, qu'en France, on utilisait le pied avant la Révolution française, avant le système métrique. À l'heure actuelle, en Angleterre par exemple, même si le pied peut être utilisé dans la vie courante, c'est le système métrique qui est valeur légale, et le pied, les unités, ce qu'on appelle anglo-saxonnes, les unités impériales, sont depuis le 19e siècle définies par rapport au système international. Donc je n'ai pas les valeurs en tête, mais un pied par exemple vaut 33 cm, quelque chose exactement. Il n'y a plus d'étalon du pied, le pied vaut une fraction du mètre.
Ouais. Bruno Jacomi, complément de réponse à la question de Jean-Paul. Quelques particularités, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on découvre. C'est que certaines cultures aussi ont pendant longtemps, et c'est tout le problème, eu leurs unités de mesure. Et c'était difficile de s'entendre.
C'est vrai que, on a mis dans l'exposition un tableau des unités de Belgique, qui est pas un pays extrêmement grand, et on s'aperçoit qu'il y avait, chaque ville avait son propre étalon de longueur. Oui, et en France, c'était pareil. Sous l'Ancien Régime, on avait cette extrêmement grande disparité. Et effectivement, pour les échanges, pour les échanges scientifiques, économiques, sociaux, etc. C'était très compliqué. Ouais. Donc effectivement, la nécessité s'est imposée à un moment donné. Ça s'est fait au moment de la Révolution française, ça aurait pu se faire ailleurs.
Avec le maître d'abord, ça a commencé à ce moment-là.
Oui, c'est très amusant d'ailleurs qu'ils aient donné le nom de maître justement, qui n'était plus lui-même relié à une longueur physique, qui c'était plus le coude, le pouce ou la palme. C'était vraiment maître, ça veut dire mesure. Donc c'était déjà une première dématérialisation des unités. C'était assez révolutionnaire comme idée.
Donc ça a été le début finalement d'une sorte de cohérence entre les unités de mesure, ce qui s'est passé à la Révolution.
Le système métrique décimal, où on a même donné l'heure décimale pour être logique jusqu'au bout. Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Ouais. Mais les autres se sont ensuite construites petit à petit.
Histoire d'accorder les violons de tout le monde autant que possible, parce que posait des problèmes pour les peuples, évidemment.
Oui.
D'autres questions des auditeurs. Sarah qui demande, comment faisait-on à l'époque justement pour faire des mesures très précises sans instruments performants? On en parlait avec les pyramides d'Égypte tout à l'heure. Le calcul de la vitesse de la lumière, par exemple.
Ah oui, là c'est une magnifique expérience qui a été faite, je pense à celle de Foucault en 1862, qui a réussi à mesurer la vitesse de la lumière avec une précision très très importante, puisqu'on était très très proche de la vitesse que l'on connaît aujourd'hui et qui est fixe maintenant, et tout ça avec un mannequin d'orgue, c'est-à-dire ce qui servait à étalonner les orgues, et cette petite turbine qui tournait à une vitesse extrêmement folle et qui permettait de piéger un rayon lumineux entre le moment où il passait et où il revenait après tout un parcours dans des miroirs. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que il mesurait la vitesse de la lumière en comparant le son de la sirène qui faisait tourner, en fait, le bruit que faisait le miroir en tournant, et un étalon, une sorte de sifflet qui était sur le mannequin d'orgue. Et en accordant les deux, on pouvait obtenir une vitesse bien précise, mesurer la vitesse. Ouais. Et avec cela, et avec le décalage du petit faisceau, on a mesuré la vitesse de la lumière. C'était assez marrant, parce qu'on mesure la vitesse de la lumière à l'ouïe, finalement.
Donc, il y a plein de façons indirectes, justement, aussi, de faire
exactement
des mesures.
Hein.
C'est ce que montre l'exposition, d'ailleurs.
Effectivement, la plupart des mesures que l'on a quotidiennement sont des mesures indirectes. Hein. Le thermomètre, en fait, on mesure la dilatation Donc on mesure une longueur, l'altimètre des avions, on mesure une pression. Et pour mesurer la hauteur d'une tour, on va mesurer un angle, finalement, ouais. Ce qu'on faisait déjà de l'époque des pyramides.
Voilà. Et les hommes ont donc trouvé des astuces, finalement, pour arriver à calculer, à mesurer le monde.
Exactement. Des choses comme ça. Toutes les mesures. Alors aujourd'hui, effectivement, on touche à l'univers quantique, mais pendant très longtemps, ça a été des astuces. Hein, voilà, l'hygromètre. On va voir la manière dont bouge un cheveu qui est humide, etc. L'électricité avec une balance de torsion.
Absolument. Et on pourra découvrir ça donc dans cette exposition au Musée des Arts et Métiers. On parlera d'autres pièces intéressantes aussi à découvrir au fil de la visite. Mathieu Thomas, il faut quand même donner les 7 unités de mesure du système international, parce qu'on en connaissait, allez, peut-être au moins 3. Si on fait un jeu là avec les auditeurs qui nous écoutent, on leur demande de nous citer les 7. Ils vont probablement en citer 3, si tout va bien. Donc,
les 3 premières, le mètre pour la longueur, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps.
Voilà, donc le kilo, le mètre et la seconde. Ça, c'est à peu près facile à citer. Ensuite, ça va se corser avec les 4 autres.
Alors, on a ensuite l'unité électrique, qui est en l'occurrence l'ampère.
Ouais.
On a l'unité de quantité de matière en chimie, la mole.
Ouais, moins peut-être, connue aussi.
On peut peut-être s'en rappeler de ses études.
Ouais. On s'en sert en chimie, en physique, c'est ça?
Essentiellement en chimie, effectivement. C'est la quantité de matière, le nombre d'atomes, si vous voulez, de molécules.
Ouais.
Le candela, pour la quantité, l'intensité lumineuse.
La candela. La candela. Crois, hein. Oui, c'est au féminin, je crois, effectivement.
La candela, comme la bougie. Ouais, la bougie nouvelle. La candela.
Donc ça, c'est l'intensité lumineuse.
C'est ça, perçue par l'œil.
C'est donc la sixième.
Il en manque une, il faut que je fasse
le Kelvin.
Le Kelvin pour la température thermodynamique. C'est le pendant, si on veut, du degré Celsius que l'on connaît plus familièrement. Mais c'est le Kelvin qui est l'unité du SI qui permet de mesurer les températures.
Voilà. Donc ces 7 unités-là, ce sont vraiment les unités de référence. Comment il faut les envisager exactement?
Oui, c'est vraiment les unités de base à partir desquelles on peut effectivement reconstruire toutes les mesures dérivées courantes.
Ouais. Alors, toutes ne seront pas redéfinies d'ailleurs à l'occasion du vote qui sera organisé la semaine prochaine.
Non, il y en a qui ont déjà été, comme le disait Mathieu Thomas tout à l'heure, qui avait été la seconde. Ça a été un grand pas quand elle a été définie. Aujourd'hui, il y aura la mole, le kilogramme, le Kelvin et l'ampère. C'est les quatre qui vont avoir une nouvelle définition et qui prendra effet le 20 mai 2019 finalement.
Ouais. Donc c'est un vote, hein, Mathieu Thomas, qui va être organisé à Versailles la semaine prochaine. Avec de très nombreux pays, parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour l'humanité quand même, et pour les États. Hein. Donc c'est très politique aussi à la fois les unités de mesure. Hein.
La réunion qui décidera de cette redéfinition, elle aura lieu donc le 16 novembre à Versailles, c'est la conférence générale des poids et mesures, c'est une conférence diplomatique. Il y a 60 membres de la Convention du Mètre, donc 60 délégations de différents pays qui sont désignées par les gouvernements, et c'est effectivement ces représentants qui vont décider ou non de procéder à cette redéfinition qui, bon, selon toute vraisemblance, aura lieu. Hein.
Oui. Mais c'est une décision. Il va y avoir un vote, donc tout pourrait arriver, hein, finalement.
Tout pourrait arriver.
Avec un refus, pourquoi pas, de la référence aux constantes de la physique.
Honnêtement, on a du mal à l'imaginer, mais en tout cas, c'est une décision qui doit être actée, prise parce qu'elle engage les États, tout simplement. C'est une conférence diplomatique. C'est quelque chose de très important, comme on l'a dit, pour le commerce, pour les sciences. Mm-hmm. Et le SI trouve aussi sa force du fait qu'il est, partagé par de très nombreux États. Il y a un consensus sur ce que sont que les unités de mesure. Ouais. Si les différents pays retournent à leur propre définition du mètre chacune, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des réunions, des conférences générales des poids et mesures, mais cela sera voté le 16 novembre. Ouais.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui a absolument besoin d'une précision absolue, quasiment, en tout cas la plus fixe possible?
On a besoin non seulement d'une très grande précision, encore une fois, on a donné l'exemple du GPS, où les mesures de durée sont fondamentalement... Les instituts faibles sur les mesures de durée sont fondamentales. Mmh. Mais on a aussi besoin d'être capable de réaliser les unités de mesure, on dit les réaliser, c'est-à-dire les mesurer au meilleur niveau, en tout lieu, en tout temps, sans avoir besoin, par exemple pour le kilogramme, qui est vraiment l'exemple archétypal, sans avoir besoin d'accéder, une fois tous les 50 ans,
au trésor, là, on a compris.
C'est exactement au trésor, exactement ça. Donc c'est vraiment, on a besoin non seulement de leur précision, de leur disponibilité en tout lieu, et aussi de leur stabilité, puisque les constantes de la physique, les constantes fondamentales, sont parfaitement stables dans le temps. Ouais. Et c'est vraiment une caractéristique importante pour les métrologues qui aiment les choses stables, immuables, dans lesquelles on peut avoir confiance.
Enfin, on pourrait dire, Bruno Jacomi, enfin cette réunion, parce que ça fait combien de décennies finalement qu'on attend ça?
Mais oui, mais on n'en avait pas forcément besoin par le passé. Les besoins viennent au fur et à mesure. Et puis il y en a dont on trouve que la définition n'était pas satisfaisante. L'ampère en est un cas intéressant parce qu'en fait, l'ampère était définie elle l'est encore aujourd'hui, disons à partir de deux fils de longueur infinie et absolument parallèles, ce qui n'est pas réalisable matériellement. Ouais. Donc aujourd'hui, la nouvelle définition va pouvoir, disons, résoudre ce problème-là. Mais bon, les raisons pour lesquelles il y a de nouvelles définitions varient un petit peu en fonction des...
C'est-à-dire des alors...
Pour l'ampère, c'était une nécessité matérielle, mais aussi, c'est vrai que c'est l'accessibilité en tout point, en tout lieu... pour tout le monde, à ces données. C'est pas forcément très simple, mais c'est faisable. Ouais. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Heureusement, parce que la mesure appartient à tout le monde, finalement. Hein.
Mais oui, mais on voit quand même que c'est une aventure qui date depuis la Révolution, qui s'est faite pas à pas, et se mettre d'accord au 19e siècle, on le voyait bien, avec l'avancée, l'évolution des techniques et tout ça, n'était jamais évident. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a aucun doute sur l'issue du vote, mais par le passé, il y a eu des discussions épiques.
Ouais. Les Français, ils ont joué un rôle finalement très important après la Révolution dans ce domaine-là. Hein.
Tout à fait. Le Conservatoire des Arts et Métiers notamment, effectivement, puisqu'il a été un petit peu le gardien de ces mesures. Et si l'on a pu exposer dans l'exposition une grande quantité de mesures de capacité, c'est parce que au 19e siècle, le Conservatoire fabriquait des étalons qu'il envoyait dans différents pays en échange d'étalons nationaux, ce qui donne une collection tout à fait magnifique. Oui, ouais. Oui. Et puis c'est là, on a mis aussi dans l'expo le creuset qui a servi à fondre en 1874 le mélange, l'alliage de platine et d'iridium pour fondre les premiers étalons en X de mètres. Ouais. Donc ça, c'est un objet historique puisqu'il s'est fait justement à quelques mètres là où a lieu l'exposition.
D'ailleurs, c'est marrant parce que vous demandez aux spectateurs, aux visiteurs d'évaluer ce qui est un mètre, hein. Et ben c'est pas si simple que ça finalement.
C'est pas si simple, c'est assez intéressant.
D'en donner la vraie mesure.
Oui, oui. Et puis on voit se construire petit à petit une sorte de courbe de Gauss où on voit que évidemment il y en a beaucoup qui sont très proches, mais il y a une marge d'incertitude aussi assez large.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de notre discussion et réponse aux questions des auditeurs sur franceinter.fr.
Good thing out of bed.
Bad Bad News, c'était Léon Bridges à l'instant.
La tête au carré.
Elle avait quitté la Terre il y a 9 mois et demi pour un voyage de 670 millions de kilomètres en direction de la planète rouge. Cette petite sonde, baptisée Mars Climate Orbiter ou encore MCO, est arrivée à destination aujourd'hui et devait se placer en orbite autour de Mars. Mais à la mi-journée, juste après l'allumage de son moteur, les ingénieurs de la NASA ont perdu tout contact avec la sonde. MCO se serait peut-être écrasé à cause d'une erreur de navigation importante.
Et alors ça, c'est incroyable, Bruno Jacomi, parce que vous racontez justement l'anecdote dans cette exposition à voir au Musée des Arts et Métiers. Ça paraît tellement dingue, finalement, qu'on soit trompé, que cette sonde se soit écrasée ou d'ailleurs soit partie très très loin dans le système solaire, juste à cause d'une erreur de calcul.
Oui, oui, tout à fait. C'est la,
et d'unité en particulier. Hein,
exactement,
c'est ça,
tout simplement parce que l'un des constructeurs qui ont élaboré cette sonde ont travaillé en unité anglo-saxonne, alors que tout le monde devait travailler en système international.
Mais comment c'est possible? Parce qu'on se pince quand on voit le cartel justement dans l'exposition.
Oui, oui, tout à fait.
Et pourtant, vous avez vérifié auprès de la NASA.
Exactement,
et
il y a une commission qui a été nommée et en fait, elle a donné ses résultats, c'était en février 2000, donc 4 mois après l'accident, et qui a mis en évidence effectivement ce petit détail de rien qui a fait que les micro-fusées qui devaient... c'est-à-dire que alors qu'on croyait que la sonde devait être à 300 km de Mars, finalement, elle est descendue jusqu'à 50 km, tout simplement parce que les petites poussées infimes qui étaient données n'étaient pas données dans la bonne unité. Et donc, la sonde a disparu.
Comment on perd quelques millions de dollars?
Voilà, 120 millions d'euros à peu près. Heureusement, c'était des petites... C'était le moment où on a lancé des petites opérations. Mais en fait, des petites opérations, il y en a eu quand même 2 ou 3 comme ça qui ont échoué. Ça finit par coûter cher.
Ça coûte très cher, effectivement. Et c'est pour ça qu'il est important de s'occuper des valeurs et des mesures pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur les échanges commerciaux en particulier, parce que c'est souvent aussi une question d'argent, évidemment, mais avant tout une question de science, parce que c'est aussi ça qui permet aux scientifiques de travailler. Dans le domaine de la métrologie, par exemple, Mathieu Thomas, c'est quoi exactement votre discipline alors?
Alors la métrologie, c'est la science de la mesure, c'est la science qui garantit et qui maintient la confiance qu'on a dans les mesures, donc qui donne et leur validité, disons, temporelle, et l'incertitude qu'on peut leur attribuer, donc la largeur finalement de la valeur qu'on pense raisonnablement être pour telle ou telle mesure.
Ouais, donc la confiance, vous dites.
La confiance, on peut dire. Confiance, ça fait une partie un peu psychologique, mais c'est la statistique, effectivement, c'est quelle largeur, avec tel degré de probabilité, on attribue à une valeur. Typiquement, l'exemple qu'on peut donner, c'est simplement si on mesure même quelque chose de simple, une table rectangulaire, et qu'on la mesure avec un mètre ruban qui est gradué en millimètres, on comprend bien qu'indépendamment des imperfections du mètre, on pourra pas faire mieux que le millimètre puisqu'il est gradué en millimètre. Alors on dit souvent la demi-graduation, un demi-millimètre, mais il y a des limites aux mesures, que ce soit les étalons, les instruments de mesure ou la définition de ce qu'on mesure. Est-ce que la table est vraiment rectangulaire ou est-ce qu'elle est un petit peu tarabiscotée, qu'on ne peut pas mesurer un rectangle finalement.
Ouais.
Ça c'est tout ce qu'il y a autour de la métrologie. Et la métrologie, elle peut se diviser en 3 grandes parties. Qu'est la métrologie, ce qu'on appelle la métrologie primaire ou fondamentale, c'est réaliser des étalons, des instruments de mesure vraiment au plus haut niveau à partir des définitions des unités du SI, du système international de l'unité. La métrologie industrielle qui est proche des processus de qualité qui s'assure qu'on mesure de manière constante tel ou tel paramètre dans un processus de fabrication avec telle ou telle confiance et tolérance. Mmh. Et enfin, là, ce qu'on appelle la métrologie légale. La métrologie qui intervient dans tous les aspects commerciaux du consommateur final, on peut dire. Donc typiquement, c'est les balances commerciales, les balances de primeurs ou de supermarchés, les pompes à essence qui délivrent des volumes de carburant.
Ouais.
Et aussi peut-être les thermomètres d'appareils réfrigérés.
Alors justement, Bruno Jacomi, la balance, on le découvre aussi dans l'exposition, elle a eu un rôle symbolique aussi, très très important.
Ah oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de l'Égypte ancienne, mais il y avait la pesée des armes et on en trouve des représentations dans les tombeaux. La balance, elle est importante aussi pour la véracité. On a exposé une balance classique qu'on voyait chez les bouchers il y a 20 ans.
Oui, c'est vrai, exactement.
Mais ce qu'on voit pas très bien, c'est qu'en dessous, il y a une petite bande de plomb et dans lequel il y a un sceau qui représente 2 mains qui se serrent, symbole de la confiance justement qu'il y a entre le commerçant et le client finalement. Mmh. Et il y a eu comme ça par le passé des vérificateurs dès avant l'arrivée révolution aussi, pour vérifier chez les commerçants que les mesures étaient bien les bonnes.
Donc la constante ou les constantes pour la confiance, c'est ce qu'il y a de mieux finalement, Mathieu Thomas, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait appel aux constantes de la physique, non ?
C'est ce qui peut avoir de mieux, effectivement, dès lors qu'on est capable d'utiliser ces constantes dans la conception des appareils que l'on va utiliser. Effectivement, ça fait partie du processus général qui nous donne de plus en plus de confiance dans toutes les transactions et les mesures qu'on fait. Il y a peu de gens qui maintenant se demandent si leur boucher, sans vouloir attaquer les bouchers, a une balance qui fonctionne correctement. C'est devenu quelque chose de transparent pour nous. Oui. On ne se dit plus est-ce que la balance est exacte, est-ce qu'elle a été plombée, est-ce que je ne sais quoi. Tous ces instruments-là deviennent de plus en plus dignes de confiance.
Et pourtant, Renault nous dit, faut-il encore contrôler l'application des définitions depuis la disparition du service des poids et mesures ? Il n'y a plus de contrôle. J'ai fait l'expérience, dit-il, dans le même rayon d'un magasin. Plusieurs thermomètres ont jusqu'à 4 degrés d'écart. Dites donc 4 degrés quand même. Donc du côté de la vérification.
Mais la vérification se fait sur des, les instruments qui servent à l'échange entre le client et le commerçant, mais pas forcément sur les éléments qu'il vend. Donc c'est vrai que les thermomètres, c'est un exemple typique.
Ouais. 4 degrés, ça paraît beaucoup quand même, monsieur Thomas. Il y va un peu fort, Renaud, non ?
Ça paraît beaucoup. On peut se demander s'il fonctionne correctement, effectivement.
Mais... Ouais. Comment se fait-il que le pied soit toujours utilisé en aviation, demande Jean-Pierre.
Ah, pour moi, c'est un mystère. Pourquoi, en plus, on mesure l'altitude en pied et les distances en kilomètres ?
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le vertical et l'horizontal.
Ah oui, on est d'accord. Ça fait partie des mystères, vraiment ? On n'a pas de réponse à ça ?
Disons que ça fait partie des choses qui sont ancrées depuis des générations. Mmh. Et le coût que ça représenterait de changer quelque chose est tellement énorme qu'on laisse les choses. D'autant plus que, comme le disait Mathieu Thomas tout à l'heure, le rapport entre, justement, le pied et le mètre est aujourd'hui fixé.
Ouais.
Ça implique quand même de faire une petite opération, mais bon. C'est comme quand on parle des chevaux, on vous vante une voiture de 160 chevaux, on devrait vous la donner en kilowatts.
C'est vrai, absolument. Et comment se fait-il, demande Bernard, et surtout, est-ce que les abréviations d'unités vont être modifiées ? Par exemple, on voit toujours, et la plupart du temps, l'unité minute écrite MN, alors qu'il y a longtemps, c'était MIN. C'est le contraire, en réalité,
Monsieur
Thomas.
C'est le contraire. Alors déjà, pour répondre au début de la question, les abréviations et les noms des unités ne vont pas changer. On aura le kilogramme pour l'unité de masse, abréviation KG, l'ampère avec un grand A majuscule, elles ne vont pas changer. Seules les définitions des unités changent, ni leur abréviation, ni les multiples, les sous-multiples, ni ce genre de choses. Et minute sera pour les durées, pour la 60e partie de l'heure, on aura MIN pour la minute et S tout court pour la seconde.
Allez, pour terminer, Bruno Jacomi, puisqu'il nous reste 30 secondes, quelle est la pièce majeure de cette exposition à voir en ce moment au Musée des Arts et Métiers, celle dont vous êtes le plus fier probablement ?
Ah là là, il y en a plusieurs, mais je pense peut-être le marégraphe de Lord Kelvin, parce que c'est un personnage étonnant,
pour William Thomson, les marées,
qui servait à déterminer effectivement la hauteur des marées, à établir les calendriers sur une année. C'est un calculateur analogique qui en plus est magnifique et qui fonctionne avec un système de poulies, de cordes, de cordes en cuivre, etc.
C'est à voir donc au Musée des Arts et Métiers jusqu'au 5 mai prochain, mais le vote donc pour ces unités de mesure avec les constantes de la physique, c'est la semaine prochaine à Versailles. Et on y reviendra dans une seconde émission la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus cet après-midi dans la tête au carré.
Merci.
Demain, mardi 20h, c'est le jour J pour la première conférence du cycle sur le cerveau que j'aurai le plaisir de vous présenter avec le neurologue Lionel Nakache depuis le studio 104 de la Maison de la Radio. Ce premier rendez-vous est consacré à la mémoire. Pour vous en dévoiler tous les secrets, cette conférence sera retransmise en direct, vous le savez, dans plus de 100 salles de cinéma en France, de Lorient à Colmar en passant par Paris. Vous avez aussi des salles de cinéma à Paris, Bordeaux, Douai, Saint-Sébastien-sur-Loire. Le studio 104 affiche complet, mais il reste quelques places dans les salles de cinéma. Si vous souhaitez donc nous rejoindre demain à 20h, réservation sur franceinter.fr.